Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Et si on appuyait sur pause ? Bonjour à toutes et à tous. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Dim Dam Dum. Dim Dam Dum, c'est un trimestriel féminin, slow living, qui invite à ralentir et à prendre du temps, comme maintenant avec ce podcast. C'est une publication du groupe Ideat, édition fondée par Laurent Blanc, aussi éditeur des magazines Lifestyle, Ideat et The Good Life. On y parle société, food, design, architecture, mode et beauté, culture, voyage et lifestyle. Le tout illustré de belles images et sous la plume d'écrivains et de journalistes spécialisés. Vous pouvez le retrouver en kiosque et dans une sélection de librairies et concept stores en France et à l'étranger, à un prix de 6,90€. Retrouvez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Maya Flore, elle est photographe et on va discuter avec elle pendant une bonne heure, je pense, de son parcours et de ses activités et de sa collaboration avec Dim Dam Dum. Salut Maya, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va bien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et revenir sur ton parcours parce que un des petits trucs que j'ai omis de dire, c'est que tu n'es pas en France, on est à distance. Et la raison pour laquelle on fait ça à distance, c'est pas parce que c'est le Covid, mais c'est parce que tu habites un peu à l'autre bout de la planète. Hein. Il me semble que tu es en Californie et aux États-Unis. Donc voilà, je te laisse te présenter. Vas-y.
Ah, je m'appelle Maya Flore, je suis photographe, ou en tout cas j'utilise la photographie pour faire des images. J'ai jamais été très fan de la photographie, mais j'aime utiliser son côté documentaire ou réel, c'est-à-dire qu'on questionne pas forcément le fait que ce soit passé, pour ensuite l'amener dans quelque chose de beaucoup plus imaginaire. Donc le départ de mon processus créatif, c'est une histoire, un dessin, beaucoup de croquis sur mes carnets, qu'ensuite je mets en scène dans la réalité, et ensuite j'utilise ou pas, ça dépend de l'histoire, j'utilise Photoshop ou la peinture pour rendre des éléments un peu plus imaginaires ou fantastiques ou poétiques. Et ça, c'est la manière dont je décrirais, en tout cas, que je suis photographe. Sinon, j'ai fait l'école des Gobelins il y a 10 ans déjà. Il y a 10 ans, j'étais diplômée.
Ça fait toujours peur quand on dit ça.
Ouais, c'est étrange. Je suis contente d'être toujours là, à faire des images d'ailleurs. À partir de là, j'ai eu la chance de rentrer à l'agence Vue à Paris, qui à l'époque m'a proposé de vendre mes archives. Et ça m'a donné confiance dans mon travail. Je me suis dit, ah tiens, bon, ce que j'ai à faire de la journée, c'est des images. Et j'ai alimenté mon travail personnel. Et éventuellement, c'est arrivé au fait que je travaille plus en galerie et en projet personnel, finalement, qu'en commande. Alors que, voilà, les Gobelins, on vient quand même d'une école où il y aura peut-être plus de travail en publicité ou quoi. Et Parmi ces 10 ans, j'ai eu la chance de gagner le prix HSBC qui m'a permis de publier ma première monographie chez Actes Sud en 2015 notamment, d'exposer à Arles, d'exposer dans beaucoup d'instituts français parce que j'ai travaillé avec le ministère de la Culture sur un très beau projet sur le patrimoine et la culture française. Ouais, en 10 ans, il se passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, atterrir en Californie, voilà, où j'habite à Los Angeles et continue de faire des images qui aujourd'hui se transforment aussi en installation et en performance. Donc, voilà.
Trop bien. Eh ben, tu es allé très très vite et peut-être un peu trop vite en besogne. Moi, j'aimerais bien revenir vraiment sur les tout débuts de Maya. Où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi et qu'est-ce qui t'a amené forcément au Gobelin ? Parce que bon, c'est quand même un choix qui n'est pas anodin. Déjà, moi, je trouve ça toujours assez impressionnant quand très jeune, on sait qu'on va vers des écoles d'art appliqué. Moi, ça me paraît assez... Enfin, une grande chance, ça me paraît assez fou en même temps. Ouais. Mais explique-nous, qu'est-ce qui t'a amené à ça, où est-ce que t'es née, où est-ce que t'as grandi ?
J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, je suis née dans la campagne...
D'où l'accent, hein. C'est pas un accent américain, hein. C'est l'accent du sud-ouest.
Ah oui, je sais pas, il y a force, il est mêlé d'un petit peu tous les lieux, mais je suis née dans le sud-ouest, j'ai grandi... entre Toulouse et, on va dire, Collioure, pour ceux qui connaissent dans les pays orientales. Et entre ces deux villes, avec mes grands-parents qui ont beaucoup d'influence sur moi, non pas qu'ils soient artistes ou qu'ils fassent partie de ce milieu-là, même loin de là. Mon grand-père avait une entreprise de sable et ma grand-mère était à la maison. Mais... leur soutien a été fondamental et les petites choses comme le fait que ma grand-mère ne parle pas si bien français que ça a eu beaucoup d'influence parce qu'elle utilise beaucoup d'images quand elle parle. Et ça m'a nourri, ça a nourri pour moi ce qui est un peu le cœur de ce que je recherche en photographie, c'est-à-dire comment est-ce que nos images intérieures peuvent être... réalisé et vu à l'extérieur. Comment est-ce que nos sentiments, nos émotions, en quelque sorte, peuvent être partagés, mais en images.
Et elle utilisait quoi comme image, par exemple?
Disons qu'elle n'utilisait pas d'adjectifs. Donc, plutôt que de dire qu'elle était heureuse ou qu'elle était triste ou qu'elle était énervée, elle allait utiliser une image qu'elle avait entre les mains, quoi. Et celui dont je me souviens souvent, c'est quand elle était heureuse, elle avait l'impression qu'il y avait comme un arc-en-ciel qui rentrait dans la maison. Donc, ça faisait plein de couleurs, alors que, tu sais, les maisons du Sud sont souvent assez, assez sombres, en fait, pour garder la fraîcheur. Et du coup, ça donnait des couleurs, ça donnait des sensations, tout comme le fait quand elle était, je sais pas, un jour elle était très vexée, elle m'avait décrit quelque chose d'une entaille sur sa peau, et petite, j'avais vraiment l'impression d'être dans sa peau, à comprendre ce qui se passait. Et je suis restée avec cette chose de ne pas savoir utiliser les mots, mais de voir les images. Et très tôt, j'ai su que les images étaient mon langage et je suis devenue complètement obstinée à l'idée de faire une école parisienne. Pas du tout les Gobelins, mais je savais que je voulais parler avec des images, voilà.
Et tu as eu un appareil photo ou en tout cas un outil pour faire des images très tôt dans les mains ou c'est arrivé que très tardivement ?
Alors moi, je ne voulais surtout pas être photographe. C'était quelque chose qui me... La photographie, j'ai passé un an en Afrique, dans l'est de l'Afrique, à Djibouti. Et à ce moment-là, c'est peut-être des pensées d'une enfant de 8 ans, quoique aujourd'hui, en étant à Los Angeles, avec les événements récents qui se passent autour de Black Lives Matter, Je me dis que ça n'a pas beaucoup changé. C'est que petite, j'étais très énervée du fait que je voyais des Occidentaux passer dans le pays où j'étais, prendre mes potes en photo. Et puis, je savais un peu ce qui se passait en France et que ces Occidentaux, souvent photographes, la cinquantaine qui arrivent de cette campagne, prend des photos comme ça et dit « voilà la réalité ». Et en fait, vision sur ce qui, moi, était ma vie là-bas, la manière dont l'image était transformée, le message était transformé par rapport à ce qui se passait lorsqu'on y vivait, a fait que je n'ai jamais cru en l'image photographique, en tout cas. J'ai toujours questionné sur la manière dont on l'oriente et j'ai pas eu d'appareil photo avant d'arriver au Gobelin, je pense. Au Gobelin, en fait, j'ai présenté mes collages et mes croquis en leur disant que c'est justement pour ça que je voulais rentrer à l'école. C'est que, bon, à l'époque, j'avais plus trop le choix, en fait. J'avais pas assez de sous pour faire une école d'art appliqué. J'avais pas été prise dans les écoles art déco ou beaux-arts, que je voulais pas vraiment faire non plus, parce que je voulais apprendre une technique pour pouvoir m'en sortir ensuite. Et Gobelin, ça a été un grand hasard à l'époque. Un ami visitait un appartement qui se trouvait dans la rue en face des Gobelins. Et il y avait marqué « porte ouverte », il pleuvait ce jour-là. Et c'est comme ça que je me suis inscrite au Gobelin. Je savais pas ce que c'était.
Et c'est quoi alors, pour ceux qui connaîtraient pas comme toi ?
L'école des Gobelins. C'est des super studios très bien équipés avec en tout cas quand j'y étais c'était un programme sur 2 ans, un programme qui était abordable financièrement aussi par rapport à des études d'art qui sont souvent très chères. Et ce dont je me souviens, c'est quand même que c'était plus orienté vers la publicité étant donné qu'on travaille avec la chambre de commerce, je crois, et d'industrie. Donc, on est souvent lié aux acteurs, on va dire aux entreprises qui vont pouvoir nous embaucher par la suite. Moi, j'étais en post-production, en photographie, donc on travaillait souvent avec des gens qui étaient en labo, des retoucheurs. Et on a un accès direct vraiment au milieu professionnel. Chose qui, moi, en tout cas, m'a donné confiance pour la suite, pour imaginer que ça puisse devenir ma vie. Voilà. Sinon, voilà, une école comme, je pense, les Beaux-Arts ou quoi, quelqu'un comme moi, je ne crois pas que j'aurais vraiment eu la tête dans les nuages en permanence et j'aurais eu du mal à rester ancrée quelque part.
Dans la réalité, ouais. Dans la réalité du métier. Très bien. Et donc, à la sortie, tu disais tout à l'heure, je trouvais ça hyper impressionnant. Tes archives ont été rachetées, mais très tôt, j'ai l'impression finalement. Ça a été et c'est ce qui t'a donné confiance. Explique-nous ce moment, ou alors peut-être qu'il y a plein d'autres choses avant, hein, mais explique-nous la sortie des Gobelins, peut-être. Comment est-ce qu'on... Ça, c'est quand même hyper, c'est hyper flippant les premières années professionnelles, le moment ouais. Où t'es hyper encadré, t'as à disposition plein de matos, trop cool. et le grand saut dans le vide où tu dois gagner tes premiers sous, aller chercher tes premières missions. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi?
À la sortie des Gobelins, alors moi, je sais pas, je me suis jamais inquiétée du fait de ne pas pouvoir gagner de sous ou quoi. Quand j'étais au Gobelin, je travaillais dans un petit magasin de jouets pour payer ma vie. Et j'ai toujours imaginé que je m'en sortirais avec à peu près n'importe quoi. Donc j'avais pas vraiment le stress, parce que j'avais pas d'attente non plus. J'étais heureuse de pouvoir faire mes images, de continuer ce que j'avais en tête, mais j'avais vraiment aucune attente. Et puis un jour, j'ai reçu un mail de l'agence Vue en m'invitant.
C'est quoi l'agence Vue?
L'agence Vue, c'est une agence de photographes qui a une belle histoire. Au départ, c'était l'agence de Libération, parce que en fait, chaque groupe de presse avait une agence photographique au sein de leur rédaction. Donc, Libération était liée avec l'agence Vue. Aujourd'hui, avec l'évolution qu'il y a eu dans la presse, ils ont été obligés de se séparer de leur photographe qui était directement lié à la maison, mais ils continuent de travailler avec des photographes auteurs. Et donc, principalement, l'agence Vue est connue pour ses photographes documentaires. Moi, j'avais entendu parler de ces noms par rapport au visa pour l'image qui se trouve à Perpignan. Et du coup, quand j'ai reçu cette email, je me suis dit que c'était un drôle de spam et je l'ai effacé. Franchement, les choses sont vraiment bien faites pour les spams maintenant. Et puis, ils m'ont rappelé quelques jours plus tard en m'invitant pour passer à l'agence. Je me suis dit, ah bon, en fait, c'est peut-être quelque chose de sérieux. Et puis, j'ai eu une discussion très sérieuse avec le directeur qui m'a clairement demandé, est-ce que tu veux être photographe? Et comme j'avais pas vraiment d'options à côté, j'ai dit, bon, bah oui, on va signer le contrat, on va faire ça. Et l'idée, c'était que j'avais un portfolio, mais ils ont fait un pari un peu fou. J'avais 20 images à l'époque quand je suis sortie avec mon portfolio. Ensuite, j'avais quand même eu la chance d'être repérée par quelqu'un à la sortie des Gobelins qui m'a permis d'exposer au Festival d'Arles et au Festival Circulation quelques mois plus tard. Donc ça m'avait quand même... Ça m'a aidé, mais dans un sens, c'est même pas le bon mot. Ça m'a permis de comprendre. C'était d'ailleurs un peu étonnant de passer d'un monde très intime dans mes images où je suis complètement dans ma bulle au moment où les images sont montrées aux autres. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai un peu établi avec moi-même des règles pour savoir quand est-ce que j'étais prête à partager les images.
Parce que c'est... Ah bon ? Alors vas-y, tu peux nous les partager ?
Bah souvent, je fais des images, mais je les publie que 1 à 2 ans plus tard. Voilà, le temps de vivre avec.
D'accord.
Que ce soit je suis très lente comme personne et du coup, quand je dessine dans mon carnet, je mets souvent la date de ce dessin et puis ensuite la date du moment où je le shoot, et parfois il se passe 3-4 ans et j'ai juste besoin de savoir quand est-ce que je suis prête à lâcher une image. Je trouve qu'aujourd'hui cette règle je l'applique beaucoup moins avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a changé au fil de ces dernières années, mais les images qui comptent vraiment, au final, je les garde longtemps pour moi. Et puis, le jour où je suis prête, je suis contente de savoir qu'elles vont aller vers d'autres regards. Voilà.
C'est marrant. C'est marrant comme ça paraît fou parce que là, tu nous fais un peu l'éloge de la lenteur, quoi. Alors qu'on est quand même à une époque où on veut aller vite, enfin, tu vois, alors, ce podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode. Et donc, quand on parle d'entrepreneuriat, souvent, les gens qui parlent à mon micro, ils disent, voilà, il faut confronter le produit. Il faut confronter son produit, son service le plus tôt possible pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien et comment réagissent les gens. Et toi, finalement, c'est marrant parce que t'as l'impression que tu digères, enfin en tout cas tu prends le temps de l'apprécier finalement et c'est même pas une question de savoir si ça a marché ou pas, c'est plus une question de je la garde pour moi le plus longtemps possible peut-être, non c'est ça?
Bah, je pense juste vouloir faire attention aux différents temps, je veux dire le temps social et le temps extérieur c'est un concept qu'on regarde sur des calendriers, mais moi, finalement, quand je dis je les garde 1-2 ans, ça peut être 15 jours, 3 semaines. Je sais pas exactement, c'est juste mon timing à moi, intérieur, est différent de celui du social. J'ai envie, quand je partage une image, d'être heureuse de la partager, pas de me sentir forcée ou poussée par quelque chose d'extérieur. Donc, éloge de la lenteur, je sais pas, c'est un peu comme quand on regarde nos relations par exemple, je trouve toujours beau de voir que parfois ça demande de la patience, mais ça met du temps à se construire, et Et si on prend ce temps-là, on se fait confiance aussi. On construit cette confiance entre nous. C'est un peu la même relation avec mes images. C'est qu'une fois que j'ai cette confiance avec elle et surtout en moi, je suis prête à les publier. Alors après, par contre, c'est bizarre parce que quand je regarde ce que j'ai mis à l'extérieur, ça me paraît aussi très loin de qui je suis aujourd'hui, forcément. Voilà. Mais j'ai toujours été un peu troublée par, dans la création, entre le moment où l'idée arrive, le moment où on la réalise et le moment où on la partage. Il y a vraiment trois temps différents et presque trois personnes différentes en moi. C'est quelque chose qui me trouble autant que ça me pousse à faire de nouvelles choses.
Explique-nous le processus de la création d'une image à chaque fois, ces trois temps, comment tu travailles finalement, c'est plutôt ça la question, c'est comment ça vient, comment ça apparaît, comment tu la transformes en image, etc.
Ouais, c'est toujours en train un petit peu de changer, j'ai l'impression qu'une fois que j'avais trouvé quelque chose, ça me passe entre les mains et je le re-questionne, mais j'ai besoin de dessiner beaucoup et de collecter des images. J'aime répondre à des images qui m'ont interpellée. Donc des images ou des textes parfois. Donc j'ai souvent une image qui m'obsède. Par exemple, au tout début de ma photo, quand j'ai commencé, pardon, je bafouille. J'avais une image d'une vidéaste finlandaise que j'avais mis dans mon porte-monnaie parce qu'elle m'obsédait, il fallait que je la regarde tout le temps. C'était deux garçons dans un bateau et le bateau se trouve dans une piscine. Et je me disais, ça me semblait tellement logique qu'ils soient là, dans leur bateau sur l'eau, et en même temps, complètement, je me disais, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et souvent, une image vient répondre à une question que j'ai en tête. La question, elle reste plus ou moins longtemps. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est une question qui est restée avec moi pendant 5-6 ans, je crois. Alors que parfois, je me pose des questions et puis je vois une image apparaître et je me dis, ah, ça y est, ok. Ouais, je crois que j'ai ma réponse. Et, au début, je dessine, je collecte des choses, je prends pas beaucoup de photographies parce que je photographie pas beaucoup parce que je sais exactement ce que je veux. Donc en général, je vais juste prendre mon appareil, savoir que je vais sur ce paysage, que j'ai besoin de me positionner dans mon cadre parce que dans mon travail, j'utilise mon corps. Je choisis mes costumes, je rentre dans mon personnage, dans mon histoire. Je fais mon film dans ma tête et j'enregistre tout ça. Comme je collecte vraiment mes mouvements, mes images, les lumières. Et ensuite, je rentre à la maison. En général, je laisse encore une fois du temps entre le moment où j'ai shooté et le moment où je regarde. Et là, je me mets à découper, à assembler, comme si j'étais avec tous mes papiers, mes peintures et tout ça. Et puis, je vois qu'est-ce qui se passe en venant mixer les images. Je sais pas pourquoi ça se passe un peu comme ça dans ma tête. Je me souviens de ce qui s'est passé et je cherche à retrouver ce sentiment à travers les mouvements et la lumière. Voilà. Donc, ça devient comme, c'est plus de la peinture, parfois j'ai l'impression. Quand j'ouvre un fichier Photoshop, j'ouvre pas une image. En général, j'ouvre un papier blanc comme je prendrais un canevas blanc, en fait. Et puis, je viens ajouter des éléments.
Donc, c'est... Mais tu es artiste, finalement. Tu te dis photographe. Quand tu te présentes, tu dis que tu es photographe, mais c'est plus de l'art. Et bon, peut-être ma question est peut-être con. Hein. Moi, je suis pas du tout... Je suis pas du tout au fait de l'histoire de l'art, etc. Hein. Je suis vraiment un newbie là-dedans. Mais pourquoi tu te définis comme photographe et pas comme artiste finalement?
Depuis que j'habite à Los Angeles, je me sens un peu plus à l'aise à dire que I'm an artist, mais parce que en anglais,
ouais, c'est plus que c'est l'anglais. C'est quelque chose ça passe mieux.
Oh, tu sais bien, c'est la culture française qui fait qu'on ne dit pas qu'on est un artiste. Mmh. On le voit quand on est mort. Voilà.
Ouais, ouais.
On vérifiera qu'on était bien ça. Mais artiste ou pas, je ne sais pas. Pour ce qui me pousse dans ces images, c'est cette recherche. Et peut-être c'est en ça que ce mot fait peur, parce que c'est des recherches qui s'étalent sur une vie, souvent. Donc, ouais. En tout cas, je mesure la chance que j'ai de pouvoir m'exprimer dans ce domaine-là aussi. Voilà. Vraiment dans les galeries, à travers des gens qui me font confiance aussi sur ce que je produis, d'avoir des collectionneurs qui regardent où j'en suis, qui me questionnent et avec qui je continue d'évoluer. J'ai beaucoup travaillé en commande et puis j'ai arrêté il y a quelques années maintenant, et j'ai senti à quel point, même si j'avais la main sur la direction artistique et qu'en général on me disait tiens voilà une carte blanche pour toi, donc en général il n'y avait pas vraiment de différence entre mon travail personnel et mon travail de commande, mais quand même, pour le coup, comme tu dis, il y a un produit à livrer, il faut quand même voir si ça va répondre de l'autre côté de manière positive, et malgré tout je pense que ça conditionnait ma créativité. Aujourd'hui reprendre cette liberté m'a pas mal coûté, en tout cas, après avoir fait beaucoup de commandes et répondu à des clients.
Ouais.
Après, je trouve ça aussi génial d'être en lien et d'être directement en discussion avec des gens qui ont besoin d'images. Ça, c'est vraiment super aussi. Donc, un équilibre de tout ça.
Ouais. Après l'agence, alors t'es toujours sous contrat avec l'agence Vue, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit?
Ouais, oui, mes archives, c'est-à-dire que souvent la presse en Europe a besoin d'images pour illustrer un sujet, et le fait que les images ce soit des sortes de scénarios psychologiques, ça marche un peu pour tout, tu peux leur faire dire un peu n'importe quoi, donc une même image a été autant utilisée par un groupe d'électricité, je crois, pour de l'énergie solaire, autant que pour lutter contre le cancer.
D'accord. Et donc, quand tu as mené ta carrière d'artiste ou de photographe, tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant de dire, ok, bah, au début, alors ça fait 10 ans que tu travailles, mais donc il y a eu un moment où tu acceptais et peut-être, est-ce que tu acceptais ou est-ce que tu recherchais des travaux de commande. Comment ça se passe, ça, concrètement? T'as un agent qui va chercher du boulot pour toi, finalement. Je vois sur ton site, il y a des choses comme, enfin, des travaux pour Louis Vuitton ou pour Boucheron, etc., qui sont un peu anciens, j'ai l'impression. Mais, comment ça se passait à l'époque? Tu allais les chercher, on venait te chercher, t'étais chez un agent, qui défendait ton travail, c'était ça?
Ouais, j'ai eu un agent en publicité qui m'a permis ce premier boulot pour Vuitton. Et ensuite, à l'agence Vue, ils ont aussi cette partie plus corporate et commande. Donc, il y a eu le moment où on a commencé à travailler ensemble. Même si l'agence Vue est pas vraiment dans la publicité, mais a pas mal de projets plutôt culturels. Et j'avais un agent aussi à New York avec qui j'ai pas mal travaillé sur des projets aux États-Unis en commande. Donc, ça passait souvent par quelqu'un d'autre, ouais, par un agent. Mais je m'en commune de temps en temps ici, je travaille avec quelques designers. Ouais. Et c'est super, ça permet dans l'année d'avoir des petits points de rendez-vous comme ça en fonction des collections qu'ils ont. Et puis, je suis quand même toujours ouverte à l'idée de collaborer avec des gens, avec la presse, voilà, avec les gens avec qui j'ai.
Qu'est-ce qui t'a amené à Los Angeles?
La vie. Ouais, j'ai... la vie dans le sens où j'ai souvent fait des choix en fonction du travail. Et puis Los Angeles, c'était un peu mon... J'en avais marre de voyager. Pendant 7-8 ans, j'ai vraiment vécu dans une valise. J'avais pas d'appartement fixe. J'étais entre Paris, les résidences d'artistes que je faisais pendant l'été, souvent en Scandinavie. J'ai vécu un peu en Islande, aux États-Unis. Je suis passée par quelques villes différentes aussi, entre l'Oregon et New York. Et puis, ça m'allait très bien pendant longtemps. Puis Los Angeles, je suis venue pendant un été en me disant bon bah je pense pas que je renouvellerai mon visa. Je vais me faire un petit été sympa avec une copine. On s'est dit qu'est-ce qui sonne comme l'été? Bah LA, c'est parfait. Et en fait le matin en volant, c'est tout bête mais je me suis retournée et j'ai vu cette fleur que j'adorais quand j'étais jeune, quand j'étais gamine, qui est à Collioure. Et puis je me retourne encore et je vois d'autres plantes et puis je regarde au fur et à mesure, tout me semblait être comme à la maison. Il y a ce climat un peu, ce climat méditerranéen, les gens ont cette même chaleur, cette bienveillance. Et puis, je sais pas, ça m'a semblé, j'ai même pas questionné, en fait, je me suis dit, ok, je reste. Voilà. Il y a quelque chose.
Ça fait combien de temps que tu y es?
Ça fait 2 ans que je suis stable, on va dire. Ça fait 7 ans que je suis entre les États-Unis et Paris. Et il y a 7 ans, en fait, j'étais arrivée aussi en Californie, mais à Berkeley, donc dans le nord de la Californie. Et à l'époque, c'est la raison pour laquelle j'avais fait mon visa. Je m'étais dit, waouh, je suis heureuse ici. C'est vraiment chouette. Et j'avais commencé à faire mon visa. Je sais pas pourquoi je me suis pas écoutée sur le moment. Je suis pas restée. Et j'ai continué un petit peu cette vie à faire toutes mes commandes, mes voyages, etc. Et puis finalement, je suis revenue au point de départ. Voilà. Ou au point d'arrivée plutôt. J'imagine vraiment rester, même si en termes d'image, c'est un gros challenge pour le moment aussi.
Ah ouais? Pourquoi?
Parce que c'est ce qui m'avait semblé quand je suis arrivée ici. Ici, que ce soit la lumière, les décors, tu connais déjà tellement tout des films que tu as vus quand tu es gamin. Que pendant longtemps, quand je prenais une photographie ou une image, même avec mon téléphone, je me disais, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai vu ça quelque part. Et arriver à lâcher cette... parce qu'en fait, je me rends compte que quand je prends des images en France, j'ai beaucoup travaillé avec le patrimoine français, comme je te disais, dans les châteaux, tout ça. Je m'amuse de ma propre histoire et de mon éducation. Ici, c'est étrange parce que j'ai grandi avec la télévision et ça fait partie de notre culture et de notre éducation sans l'être. Non. Et du coup, voilà, trouver qu'est-ce qui me ressemble et comment est-ce que je le mets en image, c'est vraiment, ça prend du temps encore une fois. Je me suis un peu lâché la grappe l'autre jour en me disant, mais, finalement, j'étais au parc et je regardais les gens jouer. Je me disais, mais j'ai jamais pris ce temps-là de regarder les gens. J'ai toujours pris pour acquis que je savais tout ça. Alors qu'en fait, non, ça observer, regarder comment la lumière tombe, comment les gens bougent, comment est-ce qu'ils se parlent. Tout ça, ça prend quand même du temps, en fait. Voilà.
Mais ça, c'est le problème de toutes les villes qui ont été beaucoup photographiées. Enfin, tu vois une ville comme Paris, comme New York, Los Angeles. Enfin, c'est des choses qui font forcément partie de notre culture. Et enfin, je parlais justement avec un ami photographe. Il me disait Paris, c'est là où est née la photo d'une certaine manière. Donc, elle a été photographiée sous toutes les coutures. Donc, faire quelque chose de nouveau sans tomber dans la carte postale, quoi, dans le piège de la carte postale, c'est hyper difficile. Comment tu arrives à à nettoyer ton œil de tout ça, de tes références. Ou est-ce que tu te poses la question d'ailleurs, ou tu te poses même pas la question?
Si, c'est super et c'est chouette d'avoir aussi ton avis d'un autre ami photographe, parce que pour moi, ce serait pas forcément faire quelque chose de nouveau, mais quelque chose quand tu le regardes, tu sais que ça résonne, ça s'aligne en toi en quelque sorte. Et pour Paris, je me suis jamais trop posé la question. Attends, comment je peux te répondre à ça? Non, parce que maintenant je pense aussi à New York, et quand j'y étais, c'était la même chose. J'étais complètement bloquée en termes d'image, en me disant c'est pas à moi cette chose-là. C'est pas à Paris. Je pense que en fait, voilà, je pense que ma porte de sortie à tout ça, à chaque fois, c'est l'humour. Et c'est comment est-ce qu'un élément, je le regarde avec mes nouveaux yeux, et en général, je demande vraiment que je fasse taire Roger là-haut dans la tête, qui souvent est très comment on dit en français, il est très bruyant. Et je suis désolée de dire ça, c'est juste que penser des fois en anglais, en français, j'ai plein de mots qui me viennent en anglais, et c'est pas pour faire chic ou je sais pas quoi. Ouais. Hein,
mais moi je le fais beaucoup, ça fait très chic, je trouve.
Non mais tu sais, en France des fois ils disent oh là là, elle se la pète avec son truc, mais c'est juste
elle
que quand
raconte,
tu dis deux langues différentes, voilà.
Elle s'est pris pour une américaine.
Ouais, exactement, là, du tout, aussi mon accent a coupé au couteau ici. Mais ouais, en gros, voilà, sur ces villes qui ont été énormément photographiées, ma porte de sortie, c'est vraiment l'humour. Parce que souvent, l'humour fait que je vais regarder à n'importe quoi d'une autre manière. Je vais te dire un exemple vraiment très bête. Je m'amuse beaucoup avec les stories Instagram, finalement, parce que ça m'a fait renouer avec une forme de narration dans la journée. Ouais. Et qu'il n'y ait pas de pression, parce que ça disparaît, bon, c'est encore plus sympa. Et l'autre jour, j'ai une vue magnifique, j'habite dans un canyon. Et en face de la maison, un jour, il recouvre le toit du voisin avec un grand plastique jaune et rouge. Et moi, en me levant, en voyant ça le matin, je me suis dit « Génial, le drapeau de la Catalogne !» Et du coup, je me suis mis quelque chose catalane en tête. Et juste faire ça, en fait, ça change tellement ce que tu regardes. Et c'est génial de voir la vie à travers le filtre de quelqu'un d'autre. Voilà. Et moi, je sais pas comment ça vient, mais quand j'ai mon filtre, en tout cas, surtout de l'humour, c'est là où je m'amuse le plus dans la vie, et que tout me paraît possible à réinventer. Tout est possible on peut tout réinventer à partir de ce moment-là. Que ce soit dans la nature, quand tu regardes la forme des arbres, des animaux, des ombres, peu importe, il y a quelque chose où il y a énormément de... Il y a beaucoup de place pour soi, en fait. Et c'est peut-être ça le problème dans les villes, c'est que tout a été construit pour que ça aille dans une certaine direction. Et beaucoup de photographes l'ont déjà tellement bien fait d'aller dans ces directions-là pour nous montrer leur truc. Que voilà, pour le moment, c'est ma réponse.
Très bien. Alors, récemment, tu as collaboré avec Dim Dam Dum. Et tu sais, Dim Dam Dum, bah, tu le sais très bien, c'est un peu l'éloge du slow living. C'est quoi pour toi le slow living?
C'est un concept de nos jours, non? C'est un concept... Attends, le slow living. On a inventé un mot pour tout simplement dire « Regarde ce qu'il y a autour de toi, c'est déjà super. » Et... Non, mais c'est...
C'est vrai.
Ouais. Il me semble. Écoute, ici, une des choses qui fait que je suis très heureuse, c'est que je fais mon jardin. Et faire son jardin, j'imagine, rentrerait dans le concept du slow living. Mais en fait, c'est même pas du slow living, c'est juste du living, c'est tout. Et moi, je réapprends beaucoup avec le jardin, avec le fait que je vive dans la nature et que, bah, par exemple, pendant le confinement, je voyais plus d'animaux que de gens, vu qu'il y a des écureuils, il y a des ratons laveurs, il y a des coyotes qui passent. Et c'est juste ça, en fait. C'est ce qu'il y a déjà autour de toi et que tu prends le temps de regarder et de te dire, tiens, c'est là. Et du coup, t'es vraiment dans le moment quand tu vis ça. Donc, ça serait ça, le slow living, ou juste le living, tout simplement. Mmh. Ouais.
Toi, t'as l'impression de vivre le slow living, finalement. T'as l'impression de vivre, non, c'est ça, dans ta façon de vivre, j'ai l'impression que, en fait, t'es né dans le slow living, quoi. T'as toujours vécu et tu t'es toujours extasié de tout ce qu'il y avait à ta disposition, sans quoi que t'as beaucoup voyagé en même temps. Donc, le voyage, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas une fuite en avant?
Ouais, moi, c'est marrant que tu dises ça parce que dans mes voyages, j'avais beaucoup d'angoisse du temps et de l'espace. Je sais pas si c'est un truc d'enfant de divorcé. Mais le fait que on va jamais rester quelque part, ça crée vraiment une angoisse. Tu sais, t'as toujours ta valise qui t'attend dans la chambre. Et avec mes grands-parents, mais j'ai quand même des parents, et du coup, j'ai eu cette vie où on passait de maison en maison et qu'il fallait déménager sans cesse. Et j'ai eu pendant très longtemps une angoisse du temps et de l'espace. Je me souviens, dans la voiture, petite, je sais plus, vers 7-8 ans, dire à ma mère, est-ce que ça va tout le temps être comme ça? C'est-à-dire qu'on est quelque part pendant un certain moment, et puis ça se termine même si on ne le veut pas. Et elle me dit, ah ouais, peut-être, ouais, ça doit être ça. Mais c'était, pour moi, ça m'angoissait parce qu'on c'est peut-être aussi quand on est enfant, on te pose quelque part. Et puis, tu commences à t'y faire, c'est chouette. Tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a autour. Tu commences à devenir familier. Et puis là, hop, ça s'enlève. Et pendant longtemps, du coup, je pense que j'ai aussi recréé cette vie-là dans le voyage. Je passais d'aéroport en aéroport, de ville en ville. Et j'avais toujours un ticket d'avion en avance. J'arrivais pas à vivre sans savoir que je repartais, en fait. Et ça c'est devenu maladif, en fait, le besoin de toujours savoir que je puisse partir. Donc c'est pour ça que pour moi, quand je te dis ça fait que 2 ans que je suis à Los Angeles, c'est quand même aussi une révolution de rester là. Et alors, pour le coup, de n'avoir aucune envie de partir. L'idée de prendre l'avion aujourd'hui m'angoisse complètement. Et je redécouvre des sensations d'enfance, et ça me fait un peu revenir à l'idée de la fleur, tout simplement. Mais c'est des choses qui sont vraiment ancrées dans la terre et en nous. C'est ces sensations, que ce soit des plantes, que ce soit de la lumière, comment se déroulent les journées, ça m'a fait revenir vraiment à ce qui me grounded, ouais, c'est m'enraciner. Et ça, c'est, je découvre des choses absolument géniales dans l'idée de construire mes racines quelque part. C'est un grand truc. Voilà. Donc, j'ai l'impression, pardon, d'être un peu née là-dedans, grâce à mes grands-parents qui ont toujours eu un jardin. On faisait du vin à la maison, on suivait les saisons du jardin, des animaux qu'il y avait à la maison. Et ça m'a toujours semblé logique d'observer ce qui se passait pour savoir où moi j'en étais aussi. Ce truc tout bête qu'on dit, quand les feuilles tombent, bah on commence à rentrer dans l'hiver. Et même en soi, je veux dire, en suivant les saisons comme ça, on est beaucoup plus aligné aussi avec nos désirs et notre timing intérieur. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée quand je suis arrivée à Paris. Je suis quand même vraiment une campagnarde, moi. Et je regardais les boutiques, et puis il y avait des maillots de bain, on était en février. Et puis après, il y avait des manteaux, on était en juillet, dans les vitrines. Je me disais, mais je comprends rien du tout, parce que si ce que je vois, c'est ce que je... de reflète ma réalité, il y a un problème. Donc souvent, je regardais autour de moi en me disant, mais qu'est-ce qu'on vit? On vit déjà dans le futur ou on est dans notre souvenir de la saison d'avant? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on en est là, en fait? Voilà. Bref. Voilà, sur le slow living.
Et le comment dire, moi il y a un truc quand même qui me, parce que c'est très personnel comme question, je trouve que moi j'ai le sentiment d'être un peu comme toi d'une certaine manière, où j'ai besoin d'aller de l'avant et de bouger. Enfin, je vis la même chose que toi, et en ce moment, alors moi j'ai vécu pendant longtemps à Paris, et maintenant j'ai envie de partir, mais j'ai envie de goûter à plein d'endroits différents.
Attends, t'es où du coup? T'es pas à Paris là?
Bah, là en ce moment, non, je suis pas à Paris, je suis à Bandol, dans le sud de la France, dans le Var, tu vois.
Ah, d'accord. Okay.
Et c'est à côté de Toulon, tu vois, dans ce coin-là, hier, Toulon, etc. Et puis je vais repartir, tu vois, j'ai envie de vivre dans des endroits différents pour, en fait, surtout pour m'éloigner de Paris. Mais à un moment donné, j'ai envie de m'ancrer aussi à un endroit. Mais ce choix, enfin, t'as eu ce coup de foudre pour Los Angeles, et j'espère avoir ce même coup de foudre à un moment donné dans mes pérégrinations. Mais un truc qui me fait peur en même temps, c'est de m'installer loin de ma mère patrie. Pour toi, parce que t'es loin de tes racines finalement, y a un côté un peu déraciné quand tu vas, parce que c'est l'autre bout de la planète, quoi. Enfin, c'est pas l'Australie, mais c'est quand même loin, Los Angeles. Oh. T'es loin de tes proches, t'es loin de tes grands-mères, t'es loin de ta patrie. Et comment tu le vis? Est-ce que tu le vis bien, ou est-ce que c'est, ou c'était une vraie question quand t'as décidé de t'installer à Los Angeles?
C'était pas un coup de foudre déjà, parce que c'était tellement ancré et tellement, c'était tellement peaceful quand je suis arrivée. Enfin, le sentiment d'être en paix avec quelque chose m'a beaucoup aidée. Et oui, la question de la famille est forcément présente. De beaucoup de choses d'ailleurs, pas que la famille, le langage, la culture, l'accès à la cuisine. Forcément, il faut qu'on en parle. Au vin aussi.
Ouais.
C'était des questions qui font que c'est sûrement la raison pour laquelle je me suis pas installée en 2013, la première fois que je suis arrivée. J'avais besoin d'aller voir mes grands-parents sans cesse, de les retrouver. Et j'avais du mal à imaginer que je puisse passer autant de temps loin d'eux comme ça. Je sentais... Puis alors vraiment, d'ailleurs c'est ce qui a un peu alimenté aussi ce stress du temps et de l'espace, c'est que à ce moment-là, j'étais en Californie et je trouvais génial de regarder le soleil se coucher et penser qu'il se levait de l'autre côté de la planète pour les gens que je connaissais. Et tu vois, là on se parle par exemple, c'est le petit déjeuner pour moi, c'est la fin de journée pour toi, on vit vraiment à l'inverse. Et ça c'est quelque chose qui est pas évident à gérer. Ce grand grand décalage quand on se fête le nouvel an, en général moi le soir à 21h je reçois déjà des bonnes années. et en fait j'ai une discussion avec eux, avec mes grands-parents, pour leur demander comment est-ce qu'ils ressentaient les choses si je m'installais là-bas. J'avais besoin d'entendre aussi ce que eux ils avaient à dire et créer cet espace pour savoir ce qu'ils ressentaient par rapport à ça. Même si moi j'avais déjà pris ma décision, j'avais besoin d'avoir leurs mots à eux sur ce qu'ils ressentaient. Ensuite, je sais pas si c'est n'importe quoi de parler de ça, mais mon arrière-grand-mère est née aux États-Unis et ensuite est revenue en Italie puis en France. Et c'est une figure dans ma famille que je n'ai jamais connue, mais qui m'a toujours poussée à trouver le courage de faire les choses, d'avancer. Elle est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais aller à Paris, c'est que quand elle était en France, elle est arrivée dans le sud de la France, mais elle était bonne pour une famille dans le 16e. Donc elle passait des mois et des mois à Paris, et puis elle rentrait de temps en temps voir sa famille dans le sud. Et voilà, ça c'est bête, mais c'est aussi, je retrace un petit peu l'histoire avec elle, et je me sens pas forcément pas dans mon pays, dans ce sens-là, en tout cas. Mais pour moi, pour revenir à cette question personnelle de où est-ce qu'on fait nos racines et comment ça se passe, ça a vraiment été le sentiment comme quand on est enfant, que justement le temps et l'espace n'existent plus. Tu sais, ce moment quand on est gamin où on s'en fiche de savoir s'il est 10h du matin ou 4h de l'après-midi. Vraiment, c'est un concept où on sait juste qu'on veut jouer, qu'on veut découvrir des trucs, on est hyper curieux d'aller voir si la fourmi qu'on a trouvée ce matin, elle est encore en train de construire son nid de l'autre côté. Ces choses-là, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Pour moi, j'ai plus du tout eu la sensation du temps qui passe. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de revenir à des sensations d'enfant. Et je pense que c'est ce qui m'a fait sentir que c'était une évidence. C'est qu'il y a beaucoup de... C'est un sentiment constant et que j'ai envie de nourrir. Et en plus de ça, peut-être quelque chose qui m'a encore plus poussée, c'est que dans mes amis et dans les gens que j'ai autour de moi, ça se reflétait aussi à l'extérieur. Voilà. Ils me disaient, oh là là, mais t'as l'air bien, en fait, là-bas. T'as l'air vraiment bien. On t'a pas vu comme ça. Voilà. On te connaissait pas comme ça. Et quand même, les gens qu'on aime autant, le voit sur le visage ou sur, en tout cas sur la manière dont on se passe la vie, c'est encore plus rassurant. Voilà. Donc on fait un pacte ensemble que finalement on est tous, enfin voilà, c'est du temps qu'on est heureux là où on est. Ça, c'est chouette. J'ai de la famille, ils vivent à 3 km les uns des autres. J'ai pas forcément l'impression que ça leur fait plus plaisir que ça. Des fois. Non, c'est vrai. Je dis ça.
On les salue.
Ouais. Coucou au sud de la France. Non, mais je dis ça parce que moi, chaque décision que je prends aussi, que ce soit dans mon travail, dans mes lieux de vie, dans mes relations, je mesure la chance que j'ai que ce soit comme ça. Et je mesure la chance d'avoir cette liberté-là, d'avoir. Quand je prends l'avion pour rentrer à Noël, waouh, c'est immense en fait de voir ces gens. Je les ai jamais pris pour acquis. Et c'est comme ça pour tout. Que ce soit le matin, mon jardin, quand je vois une tomate qui a rougi, ou quand j'arrive à faire une image et que je me dis, oh, ça y est, je sais encore faire des images, c'est génial. Ou que je vois un ami, c'est une redécouverte sans cesse, quoi. Et ça, je trouve ça assez important.
La question que je me posais, parce que je trouve que c'est... On vit, et c'est très lié au slow living, etc., et à notre époque. Moi, ce que je trouve génial, et j'adorerais vivre ce que tu vis, finalement, de dire, voilà, retrouver ce sentiment qu'on avait enfant, de ne plus avoir la notion du temps. C'est des choses qui paraissent tellement... pour moi, c'est ça, le luxe, quoi. C'est mon objectif, mais en même temps, tu vois, on est tous alors toi, je sais pas, t'as peut-être moins de contraintes, mais parce que tu t'es construit aussi une vie avec peut-être un petit peu moins de contraintes. Mais tu vois, je me disais l'autre jour, finalement, le confinement qu'on a eu en France, j'ai passé 2 mois et demi avec mes parents, j'étais chez eux à Annecy. Et je me suis rendu compte que en fait les 10 premières années de ma vie, j'étais passé à côté de mes parents. Parce que j'avais un travail salarié, mais j'étais même presque passé à côté de ma vie, finalement, parce que quand tu travailles, que tu te crées ces obligations, ou que tu as ces obligations quand tu es salarié, tu as très peu de temps pour toi, finalement, parce que tu travailles beaucoup, en plus t'es ambitieux, donc tu travailles encore plus que les autres, T'as très peu de vacances, t'as très peu de temps pour déconnecter, pour faire autre chose. T'as que 2 jours par semaine pour partir en week-end. Donc quand tu rentres dans ta famille, passer du temps en week-end, t'as que 48 heures. Donc c'est juste 2-3 repas et on s'échange des banalités en 2-3 repas. Tu vois, t'as pas le temps d'apprivoiser forcément tes amis, tes parents, etc. Et je trouve que c'était hyper frustrant, quoi. Et je me suis rendu compte de ça pendant le confinement. Et je me dis, en fait, finalement, la plupart des gens vivent ça, quoi. Enfin, tous les gens qui vivent à Paris et qui ont des jobs salariés, c'est ça leur vie, quoi. Et je trouve ça horrible, quoi, parce que tu passes à côté de ta vie, de tes amis, de ta famille. Et ma question, c'est comment se créer une vie à la fois de liberté, mais en même temps tout en restant connecté à la réalité. C'est peut-être pas, c'est d'ailleurs peut-être une erreur de dire ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense qu'il faut avoir du courage pour la prendre, cette liberté. Ça demande vraiment beaucoup de courage, parce que il y a rien à l'extérieur qui t'approuvera pour rentrer dans ce qu'est ton désir de liberté. Et pour moi, c'est une recherche quotidienne, évidemment, de trouver cet équilibre entre rester en lien avec ce qui se passe, comme tu disais, tout en préservant cet espace de liberté. Et en fait, c'est vraiment... c'est une manière de comment dire, I show up for myself every day in a way. Tu vois, c'est vraiment genre tous les jours, c'est bête, mais c'est juste je sais que je suis là pour moi, quoi. Je me parente en quelque sorte. Si j'étais un bon parent avec moi-même, je me dirais bon Maya, tu vas pas travailler non plus jusqu'à 23h ce soir. Chose que j'ai fait pendant très longtemps, à 3-4 heures du mat, me lever le matin à 6 heures et c'est reparti. Et j'avais l'impression que tout ça, c'était mon identité. Je regarde, je suis une bosseuse, je délivre, j'ai 7 clients en même temps, trop bien. Demain, j'ai un avion, je m'en fous. Ce truc-là, je sais que je l'ai fait et en fait, je sens que je n'ai plus à me prouver ou à prouver à qui que ce soit que je sais faire. C'est bon, ça fait partie du passé et je suis contente de l'avoir expérimenté. À ce moment-là, ça me faisait triper, probablement. Mais, oui, c'est le bon mot. mais du coup, voilà. Je me rends compte, en ayant fait le choix de rester quelque part, que tout ça, ça demande du courage. Ça demande du courage d'être vu pour ce qu'on veut vraiment être. Tu vois, quand tu me dis pendant le confinement, le fait qu'on fasse... On fait face à des gens, enfin, si tu étais avec quelqu'un beaucoup plus longtemps, à un moment, tu vas être découvert, en quelque sorte, tel que t'es. Parce que, il y a le moment où on va craquer, parce que ça devient difficile, ou parce que, en tout cas, on va apparaître et avoir ce courage-là de laisser ces choses-là arriver. Alors que dans une vie occupée, dans une vie où on court après quelque chose sans cesse, on évite tous ces moments en se disant que on gère. Et il me semble qu'il y a vraiment le moment où, en fait, ça... Ben, en fait, moi, la sensation que ça m'a fait, c'est que j'avais complètement perdu pied. J'ai l'image dans ma tête avec le fait que j'étais sans cesse dans un avion. Donc, c'est vrai que j'avais jamais les pieds sur terre, quoi. Et aujourd'hui, juste rester un peu plus... arriver à sentir vraiment les pieds sur terre, mais aussi se permettre cette liberté et cet espace autour pour créer, bah écoute, j'ai pas d'autre réponse que le fait que ce soit comme un muscle à construire. C'est comme, pour moi, c'est comme bien manger, faire du sport, m'occuper de mon jardin. C'est ça que je voulais dire par le I show up for myself. C'est qu'en fait, c'est tous les jours que ça se pratique. Et c'est pas tous les jours évident, et c'est ce qui fait que ça se réajuste. Mais en tout cas, je suis heureuse de savoir que c'est quelque chose que je vais pratiquer jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. C'est comme, c'est vraiment, mais c'est comme en amour. Je veux dire, on dit sans cesse que voilà, l'amour disparaît au bout de 3 ans, ça change, etc. Ouais, ça change, mais si tu te réactualises, si on se réactualise sans cesse ou avec là où on en est, qu'on est juste présent à ça, ben en fait, il y a sans cesse des, on le nourrit et on reste connecté avec ce truc-là. Après, si on décide de laisser tomber, bah, ouais, il y a pas mal de trucs qui nous laissent tomber en même temps, quoi. Tu vois, pour moi, ça me fait penser à ce concept que j'adore. Je sais pas si tu as entendu parler de l'épigénétique. Parce que ça, c'était un concept que j'avais dans ma tête depuis petite où j'avais besoin de m'entourer de beauté. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à créer des images. C'est que, à ce moment-là, j'avais du mal à trouver de belles choses autour de moi, donc je me suis mise à les créer. Et vraiment, le matin, quand je me levais, je me disais, qu'est-ce que je peux faire, ou de quoi je peux m'entourer, qu'est-ce que je peux écouter, qu'est-ce que je peux lire qui va faire que cette partie-là dans mon corps, elle sera un peu plus douce parce que je reconnais cette beauté. Et l'épigénétique, ce que je trouve génial, c'est que, bon, je vais mal l'expliquer, il faut que chacun Google à sa guise ce mot-là, mais en gros, on a notre ADN, qui est notre terrain à tous, et donc une certaine hérédité, et puis l'épigénétique, donc épi, c'est autour, et autour de la génétique, on peut modifier nos cellules, et c'est l'idée que toutes tes décisions dans ta journée, dans chaque minute, dans ta vie, ont un impact sur tes cellules pour modifier les données à l'intérieur. Donc, c'est évident que manger quelque chose qui a été procédé, de processed food, comment on dit,
digéré.
Ouais, tu vois, les aliments déjà préparés, voilà. Ah oui. Un aliment déjà préparé, eh ben, tu l'engorges comme ça dans ton corps, bah, il est déjà préparé, ça fait le même effet, ça fait l'effet d'une machine. Alors que quand tu te coupes la tomate et que tu choisis ton huile d'olive que tu mets dessus, déjà, rien que ça, tu te fais du bien. Et en fait, c'est quand même assez génial, ce concept-là, que les gens dont on s'entoure, le lieu dans lequel on choisit de vivre, ce qu'on choisit d'écouter, comme ce podcast, j'espère qu'il fera du bien, comme la musique, voilà, tout ce qu'on choisit dans nos vies a un impact sur nos cellules et ça modifie nos données dans notre corps. Donc voilà, soit on est capable de s'étendre un peu plus la vie, ou à l'inverse de se saboter, en fait, voilà. Encore une fois, ça revient à la liberté. On a le choix de faire ça. Au final, on a tous le choix. Il faut arrêter. C'est, si on est malheureux dans sa voiture le matin quand on part au travail, on a le choix d'arrêter.
C'est pas bon.
Ouais.
Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair, on a le choix. Pardon ?
Et je dis ça parce que je pense que forcément la première réponse est oui, mais financièrement et ceci, cela. Et je dois dire que pendant le confinement, moi, c'était chaud financièrement, très très chaud, parce que je venais de produire deux expos en janvier et février, et mon expo a ouvert le jour où le confinement est arrivé. Donc j'avais toute ma prod et tout, enfin voilà, j'avais investi mes sous dans ces expos, et pas grand chose ici. En fait, c'est bête, mais j'ai découvert tellement de moyens de subsister, enfin de survivre, que c'est devenu vraiment génial de voir qu'on a plein d'outils en main pour faire qu'on n'est pas obligé d'être un consommateur, voilà.
Mais ça, c'est hyper intéressant aussi, parce qu'il y a cette je pense que les gens ont peur de franchir le pas très souvent parce qu'ils ont peur de manquer, et je comprends tout à fait, tu vois, c'est quand même hyper stressant de se dire que, tu vois, quand t'es indépendant, moi je le suis depuis pas très longtemps, c'est vrai qu'il y a un côté un peu flippant, parce que tu te dis ok, bah, j'ai une visibilité à 3 mois, ou à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois, en fonction des économies des gens. Mais t'as quand même, contrairement à quelqu'un qui est salarié, qui est en CDI, etc. En France, on aime bien ça. C'est quand même beaucoup plus sécurisant. Tu sais que si jamais tu perds ton job, t'as 2 mois, t'as 2 ans de chômage, etc. Quand t'es indépendant, finalement, tu vois, t'as pas beaucoup de visibilité. Et ma question, c'est comment tu gères ce sentiment de, bah, qui peut être un sentiment d'insécurité parfois, de pas savoir ce qui va se passer demain ou à 3 mois.
Ouais, ça c'est ça. Cette question, je la poserai plutôt à quelqu'un qui a 70 ans et qui a été freelance toute sa vie, parce que. Bon, en fait, c'est marrant quand tu dis le truc du CDI. Moi, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais eu de travail où j'étais employée quelque part. Donc, j'ai jamais su ce que c'était que ce confort-là. En tout cas. Et j'ai trouvé intéressant pendant le confinement de voir que c'était sans doute ces gens-là qui étaient touchés directement plutôt que les gens qui étaient en freelance, qui ont déjà l'habitude de vivre tous les jours avec cette incertitude. Et finalement, c'était un bon souvenir que ces systèmes qu'on se crée, on les a créés, et ça veut dire qu'ils peuvent aussi disparaître. Alors que quand on est en indépendant, en sachant que tout ça n'existe pas, on va essayer de... Enfin, moi, en tout cas, moi, je vis vraiment au jour le jour. Chose que cette année, j'ai essayé de changer. En arrivant, enfin, avec les États-Unis, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus goal-oriented. Tu vois, ils savent où ils vont. Et du coup, je me suis mise à beaucoup plus planifier les choses. Et j'ai trouvé quand même, j'ai beaucoup appris dans cette période-là. Parce que, prévoir un certain nombre de choses, de fêtes, de prévoir un certain nombre d'étapes permet d'aller plus loin. Et ça, c'est un peu mon apprentissage par rapport au fait d'être indépendante, c'est que finalement, le temps que je me laisse, c'est-à-dire là, j'arrive à voir sur un an. C'était mon but, que ce soit financièrement ou dans les projets ou quoi, j'arrive à imaginer, j'arrive à avoir une vision de ce que je veux pouvoir faire dans ces un an. Et du coup, arriver à placer certains petits pions comme ça, ça me donne plus de liberté. Et ça, c'est marrant pour revenir à la photographie, parce que c'était le départ de la discussion. Dans mon dernier boulot, qui est du coup aussi ce qui sera publié dans le magazine, il y a un livre qui est sorti. Et quand je suis partie en résidence pour créer ce livre, je suis partie en me disant pas de règles, je verrai ce qui se passe. Et en fait, le fait de n'avoir vraiment aucun cadre, je sens que j'ai perdu beaucoup d'énergie. Parce que j'avais pas assez confiance en moi tous les jours pour me dire que je savais faire. Et du coup, aujourd'hui, pour revenir à ta question, c'est aujourd'hui j'essaye d'avoir quand même certaines choses déjà bien établies pour arrêter de perdre de l'énergie dans le je vais jamais y arriver, parce que ça me fait pas trop avancer. Donc juste savoir, ok. Au final, ça fait 10 ans que tu fais ça. Ça va pas changer. Enfin voilà, ça va. T'as su faire. Et puis, tu sais faire ça. Voilà, donc déjà, c'est pas mal. Et voilà. Je sais pas comment te répondre, parce que je sais pas ce que c'est que d'être employée. Et j'ai aussi mes moments où je me dis, ah tiens, ça doit être sympa quand même d'être dans une équipe, d'aller au même endroit tous les jours et d'avoir des petits rituels. Ça doit être assez cool. Et puis... voilà. Non, je sais pas. Ça dépend vraiment comment tu veux regarder les choses, j'imagine. Moi, je trouve qu'il y a, ouais, c'est clair. Il y a un certain. Si le fait d'être dans un bureau, tout ça, c'est un choix super. Si c'est pas un choix, c'est là où je trouve que c'est dommage. Ouais. Pardon, je sais pas. Ça fait longtemps.
Non, mais c'est très bien ta réponse. qu'est-ce que je veux dire? Revenons à cette collaboration avec Gim Dam Dam. Explique-nous comment ça s'est passé. Quel était le brief de départ, s'il y avait un brief, et comment tu as travaillé sur cette commande? Est-ce qu'on peut appeler ça une commande?
Ben non, parce que c'est un interview. Du coup, ben c'était assez marrant. En fait, je repartais juste du vernissage de l'expo et du livre qui venait de sortir à Saint-Malo. J'étais à la gare le matin et j'ai vu Dim Dam Dum, le magazine, là. Et dans la même journée, j'ai reçu le mail de Giovanna qui m'a demandé si on pouvait faire une interview. Et on s'est rencontrés, on a parlé de mon travail en général. Et aujourd'hui, ça va faire 3 couvertures différentes. J'ai hâte de voir ça. Ça a l'air très... Enfin, je suis flattée. Donc, c'était une interview. Et donc, j'espère qu'on travaillera ensemble, pour le coup. J'aime beaucoup le magazine.
Et l'interview, raconte-nous les dessous de cette interview.
Alors, cette interview... C'est le jour où Trump a dit qu'il fermait les frontières et je prenais mon avion le lendemain. J'ai atterri à Los Angeles genre 45 minutes avant qu'il ferme les frontières. Donc, j'étais pas dans un super état quand on s'est rencontrés. J'étais assez agitée avec Giovanna. Mes pensées étaient pas très claires, mais ce que j'ai apprécié, c'est que c'est comme aujourd'hui, on a juste discuté de la vie, on a essayé d'y mettre de temps en temps un peu de travail avec les images et l'actualité d'expo ou de livres. Mais ce que j'apprécie, que ce soit avec toi ou avec eux, c'est que au final, c'est juste des excuses pour arriver à discuter d'autres choses, et entre autres de la vie et de « et toi, comment tu fais ça ?» et « ah, oh, waouh !»« Ah oui, et toi, comment t'en es arrivé là ?» Moi, j'aimerais aussi pouvoir te poser des questions, mais c'est pas le but du podcast, tu m'as dit. Mais voilà. Au final,
voilà. Pas, c'est des questions, je les répondrai avec plaisir.
Bah non, mais ça me rend curieuse maintenant de savoir un peu où t'en es dans ton cheminement post-confinement et puis si t'as été en CDI, je te connais. Les deux seules choses que je sais sur toi, du coup, c'est que t'es dans le Var, t'as été en CDI, et aujourd'hui t'es freelance. Et tu te questionnes si tu vas rester là. Et je trouve que c'est un super point de départ pour te demander un petit peu, voilà, comment tu navigues autour de tout ça. Ouais.
Bah, je navigue à vue pour l'instant. Non, mais par ailleurs, j'ai mon podcast qui me structure quand même vachement. Ce podcast, ça fait 3 ans que je l'ai. Je vais fêter mes 3 ans bientôt. J'ai deux épisodes par semaine. Donc ça, c'est très structurant parce que tu vois, tu dois faire tes interviews, etc. Tu dois le sortir le mardi matin et le vendredi matin. J'ai une marque de vêtements à côté qui s'appelle Réuni et que j'ai cofondée avec ma fiancée et avec mon frère.
Ça, je l'ai vu,
qui avance bien. Et donc c'est des choses qui, tu vois, ça avance doucement mais sûrement. Ouais. Et j'ai cette envie depuis le confinement de quitter Paris, enfin en tout cas avec ma fiancée on veut quitter Paris, et on se dit que mais on sait pas trop encore où se poser. On parle beaucoup d'une maison dans le Gard, vivre à la campagne, etc., mais allier, tu sais, ce côté... Enfin, c'est beaucoup de barrières mentales, en fait. Tu vois, je me rends compte que c'est surtout ça. Parce qu'on a été modelé à vivre en ville, vivre dans un appartement, avoir une vie très structurée, etc. Et ça nous rend plus forcément très heureux. Et on se dit que vivre à la campagne, ça nous rendra beaucoup plus heureux. Et que c'est pas parce que tu vis à la campagne que tu peux pas... faire des épisodes de podcast à distance et, ouais. Et avoir une marque de vêtements. Tu sais, dans l'industrie de la mode, on croit souvent que si t'es pas à Paris, ben t'es has-been, quoi. Enfin, il y a cette croyance qui est complètement fausse, mais qui est encore un peu ancrée, je trouve.
Les gens sont très jaloux quand ils disent ça, c'est que eux-mêmes n'arrivent pas à sortir de là. Enfin, moi, je l'ai toujours vu comme ça. C'est drôle comment chacun alimente son truc là-dedans, tu vois.
Ouais.
Ouais.
Et très bien. Et aussi, Ton livre, là, Deal en lune, et je crois que c'est, il y a une des images de cette, de ce livre-là qui fait la couve du tome d'été de Dim Dam Dam. Raconte-nous comment tu, comment on fait un livre, en fait. Comment on travaille dessus. Tu parlais tout à l'heure d'une résidence. C'est ça, c'était, parce qu'un livre, en fait, c'est pas une commande. C'est vraiment ton choix de faire un livre, et de travailler sur une thématique, c'est ça?
En fait, c'est un festival qui se passe en Bretagne et je suis la deuxième session de ce festival où en fait ils font une collaboration ensemble avec un photographe et un écrivain. Et là, celui-ci était dans le cadre du Printemps des Poètes, si je me souviens bien. Donc du coup, j'ai collaboré avec Alban Gelé, mais la résidence, en fait, s'est passée. C'était 10 jours à Saint-Malo, sur un territoire donc bien défini. Il fallait que ce soit, que je shoote tout ça à Saint-Malo. Et on n'a pas vraiment collaboré au final. Je suis allée en résidence et elle a souhaité écrire les textes par la suite, hein, avec les images. Donc, moi, j'y suis allée, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais vraiment sans cadre. En plus, on m'avait dit livre de poésie. Donc, je m'étais dit, bon, mais je vais pas trop me contraindre. Je suis partie avec un texte de Georges Perec dans la poche, Espèce d'espace, parce que je trouve qu'il est... Il est super pour pouvoir. Il m'aide énormément à rebondir quand je bloque. Il y a parce que j'ai pas pris le livre, j'ai pris que la liste qu'il y a au début. Il y a une liste d'à peu près 40 types d'espace, hein, espace vital, espace personnel, odyssée de l'espace. Et du coup, j'ai travaillé avec ça. Et en Bretagne. Normalement, donc voilà, comme je te disais, je dessine un petit peu mes idées, un petit peu vers où je voulais partir. Parce que sachant qu'il y a des grandes marées là-bas, je voulais travailler sur les cycles et comment est-ce que la lune influence le paysage. Comment est-ce que cette attraction à la Terre influence la modification du paysage. Et en fait, j'ai pas pu travailler comme je voulais parce que rien ne se ressemble jamais sur 10 jours. C'est-à-dire qu'un jour j'arrive au midi, je regarde, je vois les poteaux au loin, la marée au fond, je me dis génial, demain je reviens, je pose mon appareil avec ma robe bleue, je saute, c'est parfait, je fais ça. Le lendemain je reviens, bon, j'ai de l'eau jusqu'au genou parce qu'en fait la marée elle a complètement changé et j'ai oublié de regarder le calendrier des marées et je me retrouve avec un paysage qui n'a rien à voir. Donc, ça m'a vraiment permis de lâcher l'affaire avec tout ce que je crois que je peux contrôler. Et j'avais plus qu'un truc à faire, c'était j'arrive avec mon appareil, ma valise et je vois ce qui se passe. Et le livre, c'est un peu construit comme ça. Je m'étais défini 2 costumes. J'ai beaucoup travaillé avec un personnage en couleur et là, j'ai décidé d'être tout en noir. Parce que j'avais l'impression d'être un peu comme un pinceau qui venait écrire dans les paysages. Et donc, en noir, ça faisait un peu comme une écriture, quoi. Et j'ai collecté tout ça. J'ai pris... pour le coup, j'y suis allée tous les jours en me disant, tiens, je vais voir ce que j'y trouve. Et j'ai ramené ça à Los Angeles. Et ici, je me suis fait de longues sessions... à alterner les images et je me suis vraiment laissé la liberté de, en étant loin, de réinventer ce que j'avais vu. C'est parti dans complètement autre chose que ce que je pensais au départ. J'ai alterné les procédés, je suis partie au labo imprimer, j'ai repeint dessus, j'ai découpé, je me suis mise aussi à imprimer sur des papiers transparents. Parce que j'en avais marre à un moment de travailler sur l'ordinateur et du coup je me suis mise à refaire la lumière mais en direct sur mes images, donc en imprimant sur un papier transparent. Je venais ensuite avec une lampe de poche refaire la direction du soleil et reprendre tout ça en photo par exemple. Voilà. Donc encore une fois beaucoup de liberté, mais la chance d'avoir un livre, c'est que ça compile tout ça dans un seul objet. et que cet objet, en plus, il est particulier. Un livre, c'est censé vivre tout seul. Alors que les expos, souvent, sont accompagnés du galeriste ou de l'artiste qui est là pour pouvoir un peu parler du travail. Le livre, ce que je trouve voilà, plus particulier, c'est que c'est un objet qui va voyager et il faut qu'il parle pour lui-même, quoi. Donc ça fait du bien d'avoir réussi quand même à aller jusqu'au bout de 72 pages, ce qui me paraissait énorme au début. et au final, de voilà, compiler tout ça dans du papier, assembler, et qu'ensuite ça parte faire son voyage à lui-même, à lui seul. Voilà.
Trop cool.
C'est ma réponse trop nulle, c'est à chaque fois, c'est trop cool. Mais bon, ça c'est métrique de langage. Pas du tout. Non. Merci de partager ton expérience et ta façon de faire. C'est hyper intéressant. Et je suis sûr que ça intéressera, mais surtout que ça passionnera beaucoup de gens.
Vous travaillez vos collections, vous?
Écoute, avec Réuni, en fait, on co-crée chaque produit avec notre communauté au travers de questionnaires et au travers de workshops où on travaille sur un seul produit à la fois pour vraiment réfléchir et aboutir chaque produit en y incluant la vision, moi j'aime bien dire l'intelligence collective de nos clients, la vision d'Alice qui est notre DA designer, ma fiancée. Et ensuite, on va chercher vraiment des grands professionnels, enfin, tu vois, des modélistes ou des designers maille, etc., quand on fait de la maille, pour aller chercher leur expérience, parce que c'est quand même en fait, faire un bon produit, parce que notre promesse, c'est de faire des produits qui durent longtemps, et dont on va pas se lasser, qui seront solides, etc. Il y a cette dimension de durabilité qui est importante pour nous. Et donc, on va chercher, tu vois, vraiment des spécialistes à chaque fois pour nous aider à faire le meilleur produit possible. Et puis ensuite, on le fait dans des ateliers, en France ou en Europe. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait nos produits à chaque fois. Et moi, j'avais envie de te parler des images parce que tu fais des images, tu fabriques des images, et ce podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode et vendre de la mode, d'une certaine manière, c'est vendre de l'image, c'est surtout vendre de l'image. Et je me rends compte encore de plus en plus avec ma propre marque, c'est que quand tu vends de la mode, tu vends quand même beaucoup d'images. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on fait une bonne image? Je pense que c'est une question qui peut paraître très naïve et qui est vachement difficile à répondre, mais j'ai envie de te la poser parce que c'est une question que je me pose beaucoup moi, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent cette question. C'est comment est-ce qu'on fait une image forte qui va vraiment donner envie?
Pour moi, une image forte, comment est-ce qu'on fait une bonne image? J'ai déjà ma réponse parce que c'est ce qui me pousse à vouloir faire une prochaine image. Et ça, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça quand t'as commencé à regarder des images, même tout petit, dans les livres, ou dans, tu sais, toutes ces publicités qu'on voyait ou quoi. C'est cette image que tu regardes une première fois. Il y a quelque chose, tu fais, ah! Et puis en fait, t'y reviens. Et quand il revient, tu fais « Ah, ok !» Donc le « Ah, hein !» Ça, pour moi, c'est une bonne image. C'est-à-dire, c'est celle qui t'appelle, qui te dit « Regarde ce qu'il y a !» Et puis, il y a un deuxième regard où tu découvres quelque chose que tu n'avais pas vu. Pour moi, ça, c'est une bonne image. Parce on parle de la mode en plus, donc du coup, il y a quand même l'idée d'esthétique dans tout ça. Comment est-ce qu'on va créer cette esthétique reconnaissable qui appelle les gens à venir s'intéresser à ça, à trouver suffisamment d'espace pour eux dans l'image pour qu'ils puissent s'identifier. Et à la fois, je pense qu'on veut aussi retrouver l'identité de ce qu'on est en train de regarder. C'est un truc un peu particulier. Il me semble qu'il faut laisser de la place aux gens, en fait, dans une image. Et avoir ce petit truc qui fait qu'ils vont y revenir à deux fois parce que ça aura suscité leur curiosité. Voilà. Donc, comment est-ce qu'après on l'a fait? C'était quoi la question? Qu'est-ce que c'est une bonne image? C'est pas comment on l'a fait.
Ouais, c'est qu'est-ce qui fait une bonne image? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne image? Mais bah franchement, j'ai envie de te poser la question, comment on fait une bonne image? Comment, parce que...
Parce qu'il me semble que tu m'as posé les deux questions, en fait. Comment on fait?
Sans doute, ouais, je suis assez fort pour poser plein de questions en même temps. Donc ouais, comment on fait une bonne image alors?
C'est deux sentiments très différents entre celui qui fait l'image et celui qui regarde l'image. Du coup, moi, voilà, pour répondre à celui qui regarde l'image, c'est vraiment... C'est quelque chose qui se passe en deux temps pour moi. C'est le moment où je regarde et je reviens dessus. Et du coup, rien que le fait que déjà je sois revenue dessus, il y a une forme d'addiction à ça. Et l'image, elle marche. Enfin, d'addiction. C'est pas une addiction, il y a une forme de curiosité et d'appel qui suscite quelque chose de nouveau. Et je pense que comme dans n'importe quelle rencontre, c'est parce que ça t'a amené quelque part que tu ne pensais pas. Et ça m'amène à l'idée, en tant que faiseur d'images, c'est la même chose. Si on se laisse cette liberté d'aller vers là où on pensait pas qu'on irait, bah c'est super. Parce qu'en général, c'est le moment où on se dit « Ah ouais, bon, je savais pas que ça partait dans ce sens-là. » Et c'est parce qu'on a réussi à lâcher que l'image est en train d'arriver. Et je sais pas pour toi comment ça se passe quand tu si t'as ce sentiment là aussi, mais dans mes premières images, le fait que je sois encore en train d'en faire, c'est que je suis sans cesse en train de rechercher ces 30 secondes au de moment où je vois apparaître quelque chose et que ça me fait un bien fou de voir que c'est là. Et puis 30 secondes après, c'est presque comme si c'était déjà acquis et que je voulais créer la suite, quoi. Voilà. Mais il y a presque un moment où t'as l'impression que tout s'aligne, tu sais, tout est réuni dans l'image, un peu comme j'imagine quand l'autre jour j'ai lu un poème de Marie Oliver, il est génial. Et c'est ce moment où tu lis les premières phrases et puis tu vois où elles t'amènent et puis le poème est assez court, il se termine sur quelque chose que tu t'attendais pas du tout et il y a 10 secondes où tout est parfait autour de toi, c'est très silencieux et tu te sens bien et puis après la vie reprend et du coup tu te dis ah ok, bon, il y aura une prochaine fois. Donc comment est-ce qu'on fait une image? C'est quand on a eu ce sentiment là, je trouve. Qui a un sentiment presque de... Presque... Ouais, d'amour. Enfin, il y a vraiment quelque chose de bienveillant, je trouve, dans le fait de reconnaître que ça fait du bien, ce truc-là. Voilà. Et en gros, comment est-ce qu'on se fait du bien? Et puis, je trouve que par la suite, ça se communique aussi aux autres et ils le ressentent quand ils voient l'image, qu'on s'est fait du bien à soi et que ça peut... aussi leur faire du bien à eux. Voilà.
Et le... Comment dire? J'ai perdu ma question. Je voulais te poser une question. Pardon, je l'avais dans la tête en même temps que je t'écoutais. Qu'est-ce qui fait des bonnes images aujourd'hui dans la mode? Je sais pas si c'est une industrie qui te plaît et que tu regardes beaucoup. Est-ce que tu regardes les images de mode? Est-ce que ça t'arrive? Et quelles sont les marques ou les photographes, hein, t'es pas obligé de dire une marque, mais où tu trouves que cette image, l'image de mode est intéressante, quoi. Parce que, enfin, franchement, c'est quand même une industrie où les images de les images de mode sont hyper fortes. En tout cas, il y a des grands photographes de mode qui sont puissantes, quoi. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis là-dessus.
Avant qu'elle me sorte de la tête, j'aime énormément ce que fait Vivienne Sassen dans la mode en tant que photographe et là où elle amène les marques parce qu'on retrouve du coup encore une fois son identité dans le sens où elle arrive à suffisamment décaler notre regard pour à la fois on peut l'identifier, mais on retrouve tellement la marque dans ce qu'elle a amené dans cette identité. Et puis en plus de ça, récemment j'ai vu qu'elle a pas mal collaboré avec des marques qui ont développé quelque chose de plus comment on dit, sustainable,
responsable. Ouais,
ouais, éco-responsable. Et je trouve que ça modifie le message. Donc, dans les images aujourd'hui, je serais pas forcément te dire quelle marque et quel photographe exactement, mais tout est affaire de contexte aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où moi, j'ai besoin, quand je regarde une image ou quand je découvre le travail d'un créateur de mode, j'ai besoin de savoir qui prend ce contexte-là en, qu'il est responsable aussi, voilà, de ce contexte-là, et que quand je regarde cette image-là, je regarde pas seulement que l'image me plaise, je veux plus regarder une image en tant que consommatrice, en fait. Je veux aussi regarder une image, je veux regarder une image en tant que conservatrice, en quelque sorte. Conservatrice de, bah, c'est bête, mais ouais, conservatrice de la planète aussi, parce que quand je regarde, par exemple, cette dernière, je crois que voilà, cette campagne, c'était Viviane Sassen avec Stella McCartney. Et le sentiment que j'ai eu, et c'est, je dis ça parce que c'est vraiment récent. Avant, je regardais des images de mode et je me demandais qu'est-ce qui fait que cette image est bien, ou qu'est-ce qui fait que cette collection me plaît. Aujourd'hui, quand je regarde cette image-là, c'est plusieurs messages qui font écho en moi. C'est pas seulement est-ce que la couleur et la forme et le tissu me plaisent, c'est quel est le message aussi qu'il y a derrière derrière leur manière de fabriquer, derrière leur ce que transmet aussi le vêtement et leur voilà, comment est-ce qu'ils sont responsables du contexte. Hein. Et ouais, pour n'importe quelle image aujourd'hui, j'adopte aussi ce filtre qui me semble trop important. On peut plus passer à côté. Je veux dire, en ce moment à Los Angeles, comme tu le sais, il y a beaucoup de manifestations et on peut pas passer à côté du fait que à un moment, par exemple, c'est aussi certaines personnes qui peuvent raconter leur histoire, par exemple, ou tout comme voilà, en tant que créateur de mode. Ils ont cette responsabilité-là de prendre en compte le contexte environnemental, le contexte de réinventer ce contexte commercial. Et je trouve ça génial que l'image puisse transporter autant de choses. on a appris, enfin, je sais pas si c'est aussi de la fin des années 80, mais on a appris à consommer de l'image et à devenir des bons consommateurs, en fait, des bons suiveurs. Et aujourd'hui, il se passe tellement de choses géniales auprès de nouveaux designers qui ont intégré beaucoup plus de données dans leur création. Voilà.
C'est génial. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est très complète. qui m'inspire beaucoup, en fait. Je trouve ça hyper cool. Et en même temps, je regarde les images de Viviane Sassen et c'est tellement cool. J'avais oublié que c'était aussi cool. Merci de me remettre ce nom dans la tête.
Mais vraiment, elle a cette manière de juste décaler comme il faut. Et en plus de ça, j'imagine qu'en tant que designer, c'est important. Il y a tellement de matière dans ces images. La matière est palpable, je veux dire, même quand elle prend des peaux en photo, c'est palpable, en fait, comme truc. Je trouve que c'est incroyable ce qu'elle fait.
Trop bien. Écoute, ça fait 1h30 qu'on est ensemble.
Ouais.
Je pense que ça pourrait encore durer très longtemps parce que je suis vraiment très heureux de notre rencontre et de notre échange. Mais bon, voilà, on a un format, il faut pas non plus trop le dépasser. Je sais pas si tu avais d'autres sujets que tu aurais souhaité aborder. Moi, j'aime bien poser quand même des questions sur le futur. Comment tu t'imagines les 10 prochaines années de ta vie?
Ça te demande une respiration, ça. moi, les 10 prochaines années de ma vie, dans 10 ans ou les 10 prochaines années?
Les 10 prochaines années, genre, on va pas faire un truc un peu trop loin, trop lointain. Mais déjà, ouais, comme t'as pas une, J'ai l'impression que tu vis très au jour le jour, finalement. Enfin, tu es très dans le moment présent. Tu es très carpe diem, finalement. Je me demande que, je me demande, est-ce que, ouais, qu'est-ce que tu imagines pour les 10 prochaines années, quoi? Faut-il imaginer, d'ailleurs? T'es pas obligé de me répondre.
Non, c'est marrant comme truc, parce que dans 10 ans, je réécouterai ça et je me demanderai bien ce que j'ai fait de cette réponse. Mais j'ai la sensation de savoir où est-ce que je serai, et ça m'apaise énormément de savoir que je serai probablement en Californie. Tu sais quoi? Récemment, la seule chose qui me pousserait à revenir en France, c'est les vignobles de mon grand-père, parce qu'il a, il a quelques vignes, mais j'avais très envie de faire du vin. Et récemment, je suis allée du côté de Santa Barbara où j'ai vu que le climat, le terrain, ressemble beaucoup à ces vignes du sud. Donc, je me suis imaginée dans 10 ans avoir des vignobles et avoir quelques cuvées. Voilà. C'est super, c'est parce que ça me permettrait de continuer quand même à faire mes images, et j'ai aucune pression de vouloir continuer ou pas. Je veux juste que ça soit, que ça continue de résonner. Donc peu importe ce qui se passera dans ces 10 prochaines années, du temps que ça résonne, que ça reste honnête avec moi-même. Moi, je suis curieuse de te poser une question. Comment est-ce que vous, dans la marque, vous collaborez avec des photographes? Du coup, qu'est-ce que vous recherchez chez eux dans ce qu'ils peuvent vous amener?
Ben, tu vois, c'est une bonne question, parce que nous, alors, on est une marque, on est récent, hein, on a quelques mois, on est né en novembre 2019, et vraiment, c'est une question que je m'étais pas trop posée, parce que tu vois, et c'est peut-être parce qu'on s'est trop précipité, qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir à ça. Mais tu sais, quand tu montes une marque et tout, il y a tellement de choses à penser que je trouve qu'on est presque passé un peu à côté de ça. On n'a pas encore pris le temps de la réflexion. Mais tu vois, quand je vois, je me dis que j'ai vraiment envie de collaborer avec des photographes qui vont nous emmener ailleurs, qui vont nous faire raconter autre chose. Et vraiment, j'ai de plus en plus envie, tu vois, et encore plus avec notre discussion, d'aller chercher des photographes qui ont un univers fort et qui vont à chaque lancement de produit, à chaque nouveau produit, nous emmener et réinterpréter réunis. Ouais. Et en même temps, tu vois, je trouve que la difficulté quand t'es une marque, c'est que c'est comment creuser le sillon de ton ADN, de ton esthétique, tout en collaborant avec des gens qui ont des univers, forcément tu vas pas aller voir des gens qui ont des univers trop différents de toi, mais comment tout ça peut s'entremêler et se construire ensemble en bonne entente pour rester cohérent vis-à-vis de tes clients, tu vois?
Ouais. Ce qui fait du bien dans ce que tu dis, c'est qu'il me semble que ça se construit ensemble. Et probablement, quand je regarde les photos de mode de certaines marques, ce qui résonne plus vraiment, c'est que on sent qu'il y a eu une application de quelque chose. Il y a eu une formule appliquée pour que ça ressemble à ça, 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 que ça plaise à tel type de personne. Alors que ma sensation que j'ai eue, par exemple, sur ce dont on a parlé, Sassen et McCartney, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu vraiment une discussion, que c'est quelque chose qui s'est fait ensemble aussi. Toi qui es du coup du côté des créateurs, moi c'est quelque chose qui me manque beaucoup dans les collaborations. Et là, récemment, par exemple, j'ai travaillé avec une créatrice ici qui s'appelle Jessie Cam, et qui a justement tout cette démarche éco-responsable. Après, elle m'a laissé tous ses produits, je me suis retrouvée avec, c'est des très beaux produits, mais ça m'a manqué d'une discussion ou de savoir vers quoi on va ensemble. Donc, je trouve que c'est... Mais comme pour tout, enfin, toi, tu fais des podcasts, donc peut-être tu le comprends encore plus, on a tellement envie d'être en discussion et en lien avec les gens, non?
Ah bah ouais, de ouf. Mais tu vois, ça, c'est le problème souvent, c'est qu'on n'a pas le temps. Et c'est vrai que nous, avec notre marque réunie, on se dit, notre motto, c'est un petit peu prendre le temps de faire les choses bien, de prendre le temps de pas se précipiter, prendre le temps de faire un bon produit. On en fait un seul, on fait pas 10 000 collections. On n'est pas, tu vois, dans cette course à l'échalote que la mode, on est là-dedans aujourd'hui. Hein. On fait 5-6 collections par an. Je te parle pas de la fast fashion, mais généralement, quand tu t'inscris dans le calendrier de la mode classique, tu vois, conventionnel, je veux dire entre guillemets, c'est quand même une course à l'échalote. Alors que nous, on se dit, bah ok, on fait un produit à la fois, on le sort quand il est prêt. Donc, je trouve que ça aurait beaucoup de sens de construire et de collaborer à chaque fois avec des photographes. Peut-être pas à chaque produit, mais en tout cas prendre le temps de collaborer sur le long terme avec quelqu'un qui soit dans l'échange et qui soit dans cette même, enfin qui soit cohérent avec l'ADN de la marque, de dire on prend le temps de faire une belle image, de belles images, etc. quoi.
Ouais.
Enfin même c'est même plus que des belles images, mais en tout cas c'est de faire des images qui ont du sens et qui disent quelque chose quoi.
Mais il me semble que ça rejoint après je te lâche hein, mais je te laisse. Il me semble que ça rejoint quelque chose, ce qui est devenu très marketing aujourd'hui, mais qu'on parle d'expérience. Il me semble qu'en tant que photographe, en tout cas, quand je suis sur certains shoots avec les clients, aujourd'hui, je n'y vais plus en me disant... Avant, j'y allais avec mes croquis en me disant « Tiens, voilà où je vais. » Et en fait, aujourd'hui, je rentre sur un plateau avec des gens en me disant « Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec eux ?» Et en fait, ça change complètement le mood, je trouve, de... À partir du moment où je veux être avec eux, il va se passer plein de choses inattendues. Et justement, ces images que j'ai pas encore en tête font que il y a quelque chose de beaucoup plus spontané qui arrive. Et alors qu'avant, je pense que j'étais dans un côté un peu plus publicitaire dans ma manière de composer mon image. Et je le faisais aussi beaucoup avec force, tu vois. Ah tiens, il faut que j'atteigne ce truc-là. Et je sais pas si ça fait un lien avec ça, mais oui, voilà.
Très bien.
Et alors, très bien.
Et dernière question, et c'était qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Je sais pas si t'as eu le temps de réfléchir.
Ah, tu m'as suggéré Vivienne Sassen, et c'est vraiment c'est un rêve d'entendre cette dame parler. Ce serait chouette.
Mmh. Bah, je vais lui écrire. Je vais tenter ma chance.
Comment ?
Je vais tenter ma chance, je vais lui écrire, je vais lui envoyer un...
Ah,
un
génial. MP. Et sinon, comme on parle de... de la mode, il y a eu quand même une grande nouvelle, c'est la nouvelle éditrice du Harper's Bazaar à New York qui s'appelle Samira Nasser. Et c'est quand même une révolution dans le monde de la mode aujourd'hui, je pense, d'avoir enfin une première femme noire à la tête d'un si grand magazine. Et je serais curieuse, voilà, d'entendre aussi son point de vue, si tu l'interviews.
Carrément. Bah écoute, on va y aller. On va se lancer, on va lui envoyer un MP aussi, j'imagine qu'elle va être très très prise. Mais... mais en même temps, je me dis que ouais, c'est peut-être possible. C'est jouable, on va y bosser. Écoute, merci, je t'abandonne définitivement, ça fait 1h50 qu'on est ensemble, on garde tout, on ne coupera rien, c'était très très bon.
Merci
d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.